Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, merci de débuter votre journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Nous sommes en direct de Washington, depuis les studios d'Independence Avenue. Nicolas Pineau et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, les anti-balaka plus que jamais dans le viseur de la MISCA en Centrafrique. Et les États voisins du Nigeria qui s'interrogent comment lutter pour ne pas devenir des sanctuaires de Boko Haram et devenir des cibles d'attaque.
Boko Haram vient recruter ici, c'est vrai. L'Utah ne dit pas la vérité, l'Utah ne dit rien.
Coup de projecteur aussi ce matin sur le désarroi des artisans de Mopti. Les années de crise au Mali ont mis à mal le tourisme dans le pays.
Pour cette année, on ne peut plus espérer voir l'arrivée massive des touristes. Il n'y a aucun espoir de pouvoir recevoir ou accueillir le moindre touriste.
Nous vous parlerons aussi de Barack Obama qui veut limiter drastiquement le programme d'écoute de la NSA sur les Américains. Mais tout d'abord, le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonjour à tous. En Centrafrique, la pression s'accroît contre les anti-balaka. Le chef de la MISCA, Jean-Marie Michel Mokoko, a assuré hier que les anti-balaka sont désormais considérés comme les ennemis de la force africaine. Et dans Bangui, les volontaires de la Croix-Rouge ont ramassé au moins 15 cadavres depuis samedi aux abords du quartier PK5.
Hier, des tirs ont encore été entendus dans cette zone où de nombreux musulmans sont menacés par des miliciens anti-balaka. Patrice Edouard Ngaïsona, coordonnateur politique des anti-balaka, a affirmé sur nos ondes que les forces Sangaris et la MISCA ont fait au moins 9 morts ce week-end. Mais Mustapha Abakar, porte-parole des ex-Séléka, donne une version différente des faits.
Depuis vendredi, les anti-balaka sont allés attaquer les musulmans qui étaient en train de prier au niveau de la mosquée centrale. La MISCA est intervenue pour les repousser. Toute la journée de samedi, les anti-balaka ont continué. Lundi matin, les Français de Sangaris étaient venus vers le PK12. Ils leur ont tiré dessus au niveau de Gobongo, ainsi que vers combattants. Donc, il y avait des anti-balaka partout qui tiraient sur la population. Donc, il y a effectivement beaucoup de morts. Parce que si la Croix-Rouge a parlé de 15 ou une quinzaine de... Mais je pense qu'il doit en avoir un peu plus. M. Ngaïsona, ainsi que M. Bouzizé, qu'ils prennent la responsabilité des crimes et des destructions qui sont opérées dans notre pays.
Mustapha Abakar, porte-parole des ex-Séléka, joint par Idriss Fall.
Et pendant ce temps à Bangui, les ambassadeurs des pays de la CEMAC demandent à leurs pays respectifs d'appuyer la MISCA. Hier après-midi, une rencontre a eu lieu avec les parlementaires de la sous-région en mission à Bangui. On fait le point avec Darina Naidoo.
Face à l'insistance de la mission parlementaire de la CEMAC pour en savoir davantage sur la crise centrafricaine, les diplomates de la sous-région ont fait savoir que le conflit n'est pas interconfessionnel. Gabriel Encha Ebia, ambassadeur de la République du Congo en Centrafrique.
La crise centrafricaine est une crise profonde. Ce n'est pas une affaire entre chrétiens et musulmans, mais c'est plutôt une affaire de gouvernance. Donc les hommes politiques qui veulent se servir des religions ou des ethnies pour accéder au pouvoir, pour prendre le pouvoir.
Pour le diplomate congolais, les États membres de la CEMAC doivent agir maintenant pour appuyer les soldats de la sous-région déployés en Centrafrique.
Il faut que les militaires de la CEMAC qu'ils soient traités soigneusement, qu'ils aient leur quotidien, parce qu'on constate qu'ils sont dans une certaine indigence et on apprend des choses. Qu'il y a ceux qui vendent maintenant les tenues, etc., pour certainement acheter des cigarettes, acheter le savon pour se laver. Donc il faut que nos États s'occupent rapidement de régler ces problèmes-là.
Notons que ces derniers jours, une partie de la population de Bangui, ainsi que des leaders des anti-balaka, ont accusé certains contingents de la force africaine MISCA d'avoir vendu leurs équipements militaires aux anciens rebelles de la Séléka retranchés dans le quartier de PK5.
Épidémie de fièvre Ebola en Guinée, l'inquiétude demeure dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, le Libéria, le Sierra Leone sont toujours dans un état d'alerte alors que le Canada a révélé que le test pratiqué sur un cas suspect s'est avéré négatif.
Et je vous rappelle que la Guinée fait face à une épidémie de fièvre hémorragique Ebola. La maladie est très contagieuse. 87 cas suspects ont été recensés. 61 personnes sont mortes, surtout dans le sud du pays. La peur règne dans toute la région, comme en témoigne Mathieu Manamou. Il est le président du Conseil de la Société Civile de Nzérékoré, c'est en Guinée forestière.
Pour toute la région, c'est la peur, c'est l'angoisse. On a peur d'être victime de cette maladie méconnue au niveau de la région. Aujourd'hui, il y a des dispositions inutiles qui sont prises. Les gens se réservent de se serrer la main, de se saluer comme d'habitude. Voilà un peu l'atmosphère que nous vivons au niveau de Zérékoré. Pour le moment, l'épidémie est contenue à Guéguédou et à Massanta. Il n'y a pas un cas encore enregistré au niveau de Zérékoré au-delà. Mais la panique qui règne, il y a la peur.
Mathieu Manamou de la société civile de Zérékoré, il était joint par Idriss Fall.
Au Bénin, les principales centrales syndicales sont à nouveau descendues dans la rue hier à Cotonou. Elles réclament toujours le limogeage du préfet et du commissaire central, jugés responsables de la dispersion violente d'une marche organisée le 27 décembre dernier.
Et c'est demain jeudi que Charles Blégoudé comparaîtra pour la première fois devant un juge de la Cour pénale internationale. L'ex-leader des Jeunes Patriotes a été transféré le week-end dernier à La Haye pour répondre des accusations de crimes contre l'humanité.
Les pourparlers de paix entre les belligérants au Soudan du Sud ont repris hier à Addis Abeba sous la bannière de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'Organisation régionale d'Afrique de l'Est. De leur côté, les Nations unies affirment manquer cruellement de fonds pour fournir une aide alimentaire d'urgence à des millions de personnes dans les deux Soudans. Timothée Donangmaï.
Le chef des opérations de la division humanitaire de l'ONU, John Ging, a expliqué que l'agence a demandé près de 2,3 milliards de dollars pour les efforts humanitaires au Soudan, dans la région soudanaise du Darfour, ainsi qu'au Soudan du Sud. Les récentes violences au Soudan du Sud ont fait quelque 700 000 déplacés et quelque 250 000 réfugiés qui ont fui vers les pays voisins. Selon l'ONU, près de 5 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire dans ce pays. Les donateurs n'ont pas été généreux, a déploré John Ging. Dans cet écart, entre ce que nous avons reçu et ce dont nous avons besoin, les gens meurent, c'est horrible et tragique. Des 995 millions de dollars demandés pour le Soudan, seulement 3%, soit 34 millions de dollars, ont été fournis. Pour ce qui est du Soudan du Sud, seulement un quart des près de 1,3 milliard de dollars sollicités ont été reçus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 5h37, temps universel dans le reste du monde. Reprise des recherches dans l'océan Indien pour tenter de localiser des éléments du vol 370 de la Malaysia Airlines. Des bateaux et des avions australiens, chinois, américains, japonais et néo-zélandais survolent cette zone agitée qui se trouve à plus de 2500 km au sud-ouest de Perth, c'est en Australie. L'autorité australienne de sécurité maritime précise que les recherches vont se concentrer sur une zone de 80 000 km². Je vous rappelle que 239 personnes se trouvaient à bord de ce Boeing qui a disparu il y a 2 semaines et demie.
Préoccupation de Washington ce matin après le lancement par Pyongyang de 2 nouveaux missiles de moyenne portée en mer du Japon. Le ministre sud-coréen de la Défense parle de sérieuses provocations. Henri Francis, le département d'État américain, lui, a vivement réagi à cette nouvelle démonstration de force nord-coréenne.
Ce sont 2 missiles Wondong qui ont été tirés ce mercredi. Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, ils ont une portée de 1300 km, mais n'en ont pas couru que 650. Le département d'État qualifie ce lancement d'escalade troublante et provocatrice et de violation claire des résolutions des Nations Unies. Ces textes prévoient notamment la suspension de tout le programme de missiles balistiques nord-coréens. Cet incident intervient alors que les dirigeants américains, japonais et sud-coréens se sont rencontrés aux Pays-Bas pour parler des ambitions nucléaires de Pyongyang. Le président américain Barack Obama a répété que la coopération militaire était vitale pour faire face à la Corée du Nord. Par ce tir de missile, Pyongyang a peut-être apporté sa réponse à ce sommet.
Et suite de la visite en Europe de Barack Obama, le président américain est arrivé hier soir en Belgique, seconde étape de sa tournée en Europe. Barack Obama participera dans quelques heures au sommet États-Unis-Union européenne, qui sera à nouveau largement consacré à la Crimée. Et en clôture du sommet, consacré à la sécurité nucléaire, Barack Obama a estimé que l'attitude de la Russie dans la crise illustrait plus sa faiblesse que sa force, Lionel Gaïma.
Dans une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hollandais à l'issue d'un sommet sur la sécurité nucléaire à La Haye, M. Obama a plaidé à plusieurs reprises en faveur de l'unité de la communauté mondiale sur le dossier ukrainien. Rappelant la décision d'imposer des sanctions à la Russie, le président Obama a mis en garde contre de nouvelles ingérences de Moscou en Ukraine.
There's no expectation that they will be dislodged by force. And so what we can bring to bear are
Le chef de l'exécutif américain continue d'affirmer qu'il n'existe pas d'option militaire pour libérer la Crimée, mais il espère que les pressions diplomatiques, politiques et économiques indiqueront aux Russes qu'ils ont un prix à payer pour leur violation de l'intégrité de l'Ukraine. En réponse à l'annexion de la Crimée, les pays du G7, les sept pays les plus industrialisés du monde, ont adopté une position commune en refusant de participer au prochain sommet de Sotchi avec la Russie. Ils ont également exclu la Russie du G8.
Et à noter que Barack Obama rencontrera aussi le secrétaire général de l'OTAN avant de se rendre à Rome, où il doit s'entretenir avec le pape François.
L'opposition syrienne a réclamé mardi devant le sommet de la Ligue arabe à Kuwait City des armes sophistiquées. Le chef de l'opposition syrienne, Ahmad Jarba, a demandé aux pays arabes de faire pression sur la communauté internationale alors que l'Arabie saoudite accuse le monde d'avoir lâché les rebelles dans un conflit qui s'enlise. Enfin, le bilan du glissement de terrain qui a dévasté un village de l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, s'est à nouveau alourdi hier. Le nouveau bilan fait état de 24 morts, selon les autorités. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues.
Merci Anne, on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. De retour avec vous depuis Washington en direct. Nicolas Pineau pour vous présenter la deuxième partie du Monde Aujourd'hui. Et nous reparlons ce matin de Boko Haram. Le gouvernement du président Goodluck Jonathan affirme que les combattants trouvent refuge dans les pays voisins d'où ils mènent des attaques transfrontalières au Nigeria. Timothée Donangma et les voisins du Nigeria sont alors confrontés à un dilemme, ne pas devenir des sanctuaires de Boko Haram, ni devenir de nouvelles cibles.
Au Niger, la capitale régionale de Diffa est juste de l'autre côté de la frontière de l'État de Borno, l'épicentre de l'insurrection au Nigeria. Le préfet de la région de Diffa, Inoussa Sauna, dit que sa ville est sur la ligne de front.
Ça reste permanent, On est juste vigilant. Et que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu faire des opérations sur le territoire nigérien.
En février, l'armée du Niger a déclaré que les autorités ont arrêté 20 militants nigérians de Boko Haram qui auraient planifié des attentats contre Diffa. Depuis que le Nigeria a monté une offensive contre Boko Haram en mai dernier, près de 60 000 personnes ont fui le nord-est pour les pays voisins. La plupart sont allées au Niger. Au Cameroun, il est à craindre que Boko Haram n'ait établi des camps dans les zones frontalières montagneuses. Le groupe pourrait être en train de recruter des adeptes. Amaoundé Mohamed est l'imam d'une mosquée à Kolofata, une ville camerounaise près de la frontière du Nigeria.
Oui, Boko Haram vient recruter ici, c'est vrai. L'État ne dit pas la vérité, l'État ne dit rien.
Sanoussi Ibrahim, un prédicateur de Boko Haram de l'État de Borno, a été détenu pendant 3 mois par les autorités camerounaises. Un journaliste de La Voix de l'Amérique l'a interviewé ce mois-ci dans l'extrême nord du Cameroun.
I am here to preach the message of Allah.
Je suis ici pour prêcher le message d'Allah. Je ne fais que transmettre le message de l'islam. Le Nigeria a fermé une partie de sa frontière avec le Cameroun, arguant que les militants ont utilisé ce pays comme base pour se faufiler au Nigeria et mener des attaques. Le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari, rejette les allégations selon lesquelles son pays serait complaisant ou indulgent face à une menace terroriste régionale.
Let me say here that such allegations are irresponsible and ungrounded.
Permettez-moi de dire ici que ces allégations sont irresponsables et sans fondement. La secte a effectué 2 enlèvements de citoyens occidentaux au Cameroun, mais les militants nigérians ont plutôt ménagé ce pays. Cela pourrait changer si le Cameroun adopte une position plus agressive.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Il est 5h44, temps universel au Mali. Après des années de crise, les artisans de Mopti font toujours grise mine. Les touristes ne sont toujours pas revenus dans la Venise du Mali. Le chiffre d'affaires a plongé car les objets artisanaux ne se vendent plus aux grandes dames des artisans, qu'a rencontré le correspondant de La Voix de l'Amérique sur place, Mamadou Bokoum.
Depuis plus de 5 ans, les artisans mopticiens sont confrontés à d'énormes difficultés. Une situation survenue à cause de la crise que le Mali a connue. Malgré l'évolution positive de la situation, le secteur vivote encore. L'écoulement des produits est toujours timide. Draman Diga est un bijoutier. Selon lui, non seulement rien n'a changé, mais les matières premières aussi sont devenues chères.
On ne peut pas acheter les métals, l'argent blanc, le cuivre, parce que c'est à l'aide de ces trucs-là que nous travaillons. Et puis, c'est pas facile. Même les charbons là que tu vois, pour rentrer en brousse, pour faire le charbon, c'est pas facile parce que tu n'as pas l'accès. Donc, en tout cas, nous, à notre niveau, il n'y a pas eu de changement en réalité. Jusqu'à présent, on est en train de continuer à tâtonner, on est en train de se débrouiller. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de la facilité. Parce qu'en réalité, il va falloir aider les artisans.
Autre acteur artisanal, les antiquaires, puisque ce sont eux qui font écouler les produits artisanaux. Ici, l'espoir de la relance pour cette année est minime. Aboubakar Kané, antiquaire.
Le retour des touristes pour cette année, quand même, on ne peut plus en parler. Parce que c'est une industrie qui n'est pas délocalisable. Il y a des périodes de l'année où les touristes se programment pour quand même venir visiter les sites. Et ces sites ne peuvent pas être délocalisés. Et en temps normal, la saison touristique commence à partir du mois d'octobre et ça prend fin mi-mars. Pour cette année, on ne peut plus espérer, c'est-à-dire voir l'arrivée massive des touristes. Et il n'y a aucun espoir, c'est-à-dire de pouvoir recevoir ou accueillir le moindre touriste.
Pour que l'artisanat retrouve ses lettres de noblesse, il faut des préalables, dit Baba Touré, fabricant de colliers.
Tout d'abord, il faut la sécurité. Il faut que le gouvernement prenne sa responsabilité pour que la sécurité soit à 100%. Et puis ensuite, il faut que le gouvernement s'implique dedans pour faire des campagnes de sensibilisation au niveau national et international pour que le tourisme puisse reprendre.
Des défis qui pourraient être relevés avec le retour du Mali à l'ordre constitutionnel. L'artisanat occupe une place de choix dans l'économie de la région. Les autorités doivent donc multiplier d'ardeur pour sécuriser la zone, gage d'une relance des activités artisanales. Mamoudou Bokoum Amopti, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
L'actualité africaine ce matin, c'est aussi les quelques 3100 papiers africains qui ont accepté de quitter Israël contre une somme d'argent. Le gouvernement israélien avait auparavant indiqué qu'un accord avait été conclu avec un pays tiers prêt à les accueillir sans révéler le nom de ce pays. Pour les autorités israéliennes, il s'agit d'un acte volontaire de la part des immigrés, mais les associations de défense des demandeurs d'asile parlent, elles, de pression. Pour faire le point, Jacques Aristide a joint Scott Bob. Il est le chef du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem.
Israël, depuis quelques années, essaie de réduire le nombre d'immigrants africains que, pour l'Israël, le gouvernement sont des immigrants économiques qui cherchent seulement du travail, bien que les immigrants disent qu'ils fuient des régimes autoritaires et peut-être même la mort. Alors, ils ont pu déporter plusieurs centaines, peut-être quelques mille réfugiés, par exemple, de Côte d'Ivoire et du Sud-Soudan, disant que, bon, les guerres chez eux étaient finies, donc ils pouvaient rentrer chez eux. Mais pour le cas de l'Érythrée et du Soudan même, comme il y a encore des conflits et beaucoup de problèmes de droits de l'homme, c'est très difficile, selon les statuts internationaux, pour déporter ces gens. Donc, le gouvernement essaie de trouver une solution. Et cette solution, pour le moment, apparaît être de les encourager, pressionner même, de quitter le pays volontairement.
Nous savons que des milliers d'immigrés africains ont manifesté ces derniers mois contre le refus des autorités israéliennes de leur accorder le statut de réfugié.
Comme tu as souligné, ils sont très pressionnés. Ils sont en plus maintenant dans cette facilité, c'est une prison ersatz où ils sont isolés. Ils peuvent sortir pour quelques heures, mais ils doivent toujours rentrer le soir. Et donc, c'est une pression pour qu'ils quittent volontairement le pays. Beaucoup n'ont pas accepté cette offre et disent que non, c'est la mort certaine qui leur attend chez eux. Donc, ils préfèrent de rester dans une sorte d'incertitude en attendant que peut-être la demande d'asile peut-être serait accordée.
Donc, un sujet très polémique, en quelque sorte, en Israël.
Polémique et difficile, parce qu'il y a quand même des Israéliens qui supportent beaucoup les migrants, disant que ce n'est pas juste. Il ne faut pas oublier que les Juifs, les Israéliens eux-mêmes, ont été des réfugiés pendant des millénaires et ont souffert beaucoup partout dans le monde. Donc, pourquoi ils commencent à traiter des gens comme ils ont été traités, donc. Et alors, ils ont beaucoup de soutien parmi certains groupes qui les appuient. Et c'est pour ça que ce cas, cette détention dans cette facilité, sera présentée devant la Cour suprême à partir du 1er avril.
Analyse de Scott Bob, le chef du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et une fenêtre sur l'actualité américaine. Cet appel du président Barack Obama pour mettre fin à la collecte systématique des données téléphoniques aux États-Unis par l'Agence nationale de sécurité, la NSA, qui devra dorénavant avoir la permission de la justice pour obtenir des données auprès des compagnies téléphoniques, comme nous l'explique Jean-Roger Billon.
Ces compagnies, sous la nouvelle procédure, ne seront pas obligées d'archiver tous les appels téléphoniques, mais elles devront fournir à la NSA des mises à jour des relevés de tout numéro spécifique identifié comme suspect par les analystes de la NSA. Lors d'une conférence de presse aux Pays-Bas, M. Obama a dit que cette nouvelle politique devrait assurer l'équilibre entre les libertés individuelles et les impératifs de sécurité.
Overall, I'm confident that
Je suis convaincu que cela nous permettra de faire ce qui est nécessaire face aux dangers d'attaques terroristes, mais d'une manière qui réponde aux préoccupations que les gens avaient mises en relief.
M. Obama a ordonné une revue du programme de surveillance téléphonique après les fuites orchestrées par l'ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, l'année dernière. Les documents de la NSA ont montré que les États-Unis avaient mis sous écoute les communications des alliés étrangers, dont le téléphone cellulaire de la chancelière allemande Angela Merkel. Pour M. Obama, l'Amérique doit redorer son blason terni à travers le monde.
Je reconnais qu'en raison de ces révélations, il est nécessaire que nous regagnions non seulement la confiance des gouvernements, mais aussi et surtout celle des citoyens ordinaires. Et cela ne va pas se faire du jour au lendemain parce que je pense qu'il y a une tendance à se méfier du gouvernement et à douter en particulier des services de renseignement des États-Unis.
Une législation similaire à celle du président Obama est sur la table des députés à la Chambre des représentants. Le projet de loi interdit également à la NSA la collecte en vrac des données téléphoniques, mais ne nécessite pas du gouvernement la saisine d'un tribunal pour obtenir les données des compagnies de téléphone.
Place au sport dans cette émission. Ce mercredi matin, nous retrouvons Timothée Donogmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Nicolas.
Allez Timothée, on commence par du football. Le Bayern de Munich en Allemagne qui conserve son titre de champion en Bundesliga. Et ce, alors qu'il reste 7 matchs à jouer.
En battant Hertha Berlin hier par 3-1, le Bayern est devenu le champion le plus précoce en 51 ans de Bundesliga. Il s'agissait de la 19e victoire consécutive du club bavarois et de la 10e consécutive en déplacement. C'est aussi le premier titre sous le coach Pep Guardiola.
On continue à parler du ballon rond. Amnesty International a appelé la FIFA à cesser de fuir ses responsabilités par rapport aux droits des travailleurs au Qatar, ce pays devant accueillir la Coupe du Monde 2022.
Le Qatar est accusé de maltraiter les travailleurs migrants dans le secteur du bâtiment. Le journal britannique The Guardian a rapporté en septembre dernier que des dizaines de travailleurs népalais sont morts l'an dernier au Qatar. Amnesty et la Confédération internationale des syndicats craignent que la situation des travailleurs au Qatar ne se dégrade avec les travaux des infrastructures du Mondial 2022.
Du nouveau, pour David Beckham, les architectes ont recommandé à la star anglaise le port de Miami comme site du futur stade du club de foot de l'ancien capitaine anglais.
Ce club, dont la date de création n'a pas encore été fixée, évoluera dans la Ligue professionnelle américaine de football, la Major League Soccer. Le plan présenté lundi prévoit un stade ouvert sur la baie de Miami avec entre 21 000 et 35 000 places. Pour l'heure, Beckham tente de convaincre l'Assemblée de l'État de Floride d'accorder sa bénédiction et surtout d'apporter sa contribution à l'entreprise.
Tennis, le tournoi de Key Biscayne en Floride. Chez les dames, Maria Sharapova a bataillé dur pour se hisser en demi-finale.
Sharapova a défait 1-2-7, 7-5 et 6-1 Petra Kvitova. Elle espère que cette fois-ci sera la bonne après avoir échoué à 5 reprises en finale de ce tournoi. Chez les messieurs, le triple champion du tournoi, Novak Djokovic, s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a défait Tommy Robrero 1-2-7, 6-3 et 7-5. Toujours chez les messieurs, Kei Nishikori a défait la tête de série numéro 4, David Ferrer, par 2-7-1 pour se faire une place en quart de finale.
Enfin la NBA, Timothée, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière. Toronto a chuté à Cleveland 100-102. Victoire à domicile d'Orlando contre Portland, 95-85. Enfin Dallas qui bat Oklahoma City en prolongation, 128-119. C'était le journal des sports présenté par Timothée Donangmaï. Avant de conclure cette émission, parlons un petit peu de musique pour vous dire que l'association World for Chad a organisé pour la toute première fois un grand concert à N'Djamena en soutien à 15 projets de forage. En tête d'affiche de cette noble cause, l'artiste Keisha qui répondait aux questions de Roger Muntou.
Alors on est parti au Tchad pour une organisation qui s'appelle World for Chad. Et en fait, le but, c'était de collecter des fonds pour construire des puits dans des parties des villages dont il y avait besoin. Et donc, on a répondu présent. Hein. Donc, c'était un concert caritatif où nous, on faisait un concert, on faisait venir des gens qui avaient les moyens et puis on utilisait le bénéfice de ce concert pour construire des puits dans les villages au Tchad.
On se touche, on se bouge, bébé. À l'africaine, bébé. Donne-moi du love, bébé. C'est pour l'Afrique, bébé. Et les Antilles, bébé. Et tous nos gens, bébé. Qui marchent la tête haute. Levez les mains en l'air et criez que vous êtes là.
Voilà, on vous signale évidemment que d'autres artistes ont pris part à cette initiative, notamment Mbokobé, Père Lama, l'Ivoirien Molaré, Médicustos de la Guadeloupe ou encore Soumbil de la Côte d'Ivoire.
Tu sais, dans la vie, faut pas seulement s'inquiéter. On veut juste danser, on veut juste s'amuser. Tu sais, dans la vie, on va pas toujours pleurer. On veut juste danser, on veut juste s'amuser. Tu sais, dans la vie, faut pas seulement s'inquiéter. On veut juste danser, on veut juste s'amuser. Tu sais, dans la vie, on va pas toujours pleurer.
Bon, au prince, allez, Abidjan, allez, Accra, allez, Lagos, allez, Rwanda, allez, Maputo, allez, 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 Saint-Tomé, allez, Casablanca, allez, Alger, allez, Cotonou, allez, 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 allez,
allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez,
seulement s'inquiéter. On veut juste danser, on veut juste s'amuser. Tu sais, dans la vie, on va pas toujours pleurer. On veut juste danser, on veut juste s'amuser. Tu sais, dans la vie, faut pas seulement s'inquiéter. On veut juste danser, on veut juste s'amuser. Tu sais, dans la vie, on va pas toujours pleurer.
Lomé, Ouagadougou, Douala, Libreville,
et allez, avant de nous quitter, retrouvons Anne Albertson pour un rappel des grands titres de l'actualité ce matin.
En Centrafrique, la pression s'accroît contre les anti-Balaka. Le chef de la MISCA, Jean-Marie Michel Mokoko, a assuré mardi que les anti-Balaka sont désormais considérés comme les ennemis de la force africaine, la MISCA. C'est demain jeudi que Charles Blé Goudé comparaîtra pour la première fois devant un juge de la Cour pénale internationale. L'ex-leader des jeunes patriotes ivoiriens a été transféré le week-end dernier à La Haye pour répondre des accusations de crimes contre l'humanité. Reprise des recherches dans l'océan Indien pour tenter de localiser des débris du vol 370 de la Malaysia Airlines. L'autorité australienne de sécurité maritime précise que les recherches vont se concentrer sur une zone de 80 000 km². Enfin, préoccupation de Washington ce matin après le lancement par Pyongyang de deux nouveaux missiles de moyenne portée en mer du Japon. Le ministre sud-coréen de la Défense parle de sérieuses provocations.
Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Je salue les fidèles du Monde Aujourd'hui, en particulier David Olojogbe, mais également Péchilerde Elenga à Lubumbashi. Comme eux, retrouvez-nous sur le www.lavoixdelamerique.com ou sur notre page Facebook. Anne Albertson et Nicolas Pinault vous ont accompagnés ce matin dans ce studio. Merci de votre fidélité à nos programmes. Un grand coucou à tous les auditeurs de Kinmalebo, de Beni, de Butembo en RDC, mais aussi Bujumbura au Burundi. Excellente journée, à l'écoute de la Voix de l'Amérique.